Donc nous passons maintenant de la période de l'été à la période de l'hiver. Et certaines parties de la prière vont changer. Deux endroits. La deuxième bracha de la Amida, au lieu de dire Moed Atal, c'est-à-dire qui fait descendre la rosée, on dira Mashiva Ruach Moed Geshem. Mashiva Ruach qui souffle le vent, et Moed Geshem qui fait descendre la pluie. Attention, une erreur extrêmement commune, les gens disent Mashiv Haruach. C'est faux, il faut dire Mashiv Haruach avec un accent dans le Shin. Mashiv Haruach signifie qui ramène du vent. Il n'y aura pas de vent, il n'y aura pas de pluie, il n'y aura rien du tout, c'est la sécheresse, Dieu nous en préserve. Et les gens disent Mashiv Haruach, ils vont le contraire de ce que ça veut dire. Il faut mettre un accent dans le Shin, Mashiv Haruach, qui il souffle le vent. Ensuite, les deux choses qui changent, c'est dans la 8e bracha de l'Amida. Dieu bénit les années, donc on parle de bénédiction, c'est-à-dire de la pluie. Là, on rajoutera durant l'hiver, enfin, il faut rajouter au moins la phrase suivante, que Tenta le matin de bracha, donne de la rosée et de la pluie en bénédiction. Nos frères Ashkenaz disent tout ça pendant cette phrase, ils disent le même bracha exactement, ils rajoutent cette phrase. Les Sfaradim ont une tout à fait autre bracha. En été, ils disent Bachenu, Hashanu Kenu. Et en hiver, ils disent Barech Hashem Alokenu, Hashem Alokenu, Hashem Alokenu, Hashem Alokenu, Hashem Alokenu, beaucoup plus lent. Bon, comment est-il doré? On va évoquer durant ce cours-là les lois qui concernent ces deux rajouts. Quand on décore les flèches, jusqu'à quand? Qu'est-ce qui se passe si on a oublié? Qu'est-ce qu'on fait si on est à l'étranger, on est venu en Israël, c'est pas la même date, etc. Ça, c'est compliqué. Donc, Hashem, pour finir aujourd'hui, où on aura notre cours pour finir la fin. La première chose qu'on rajoute, c'est donc Mashiv Haruach Moed Hageshem. C'est pas une demande. Comme on pourrait le croire, Mashiv Haruach, c'est-à-dire qui souffle le vent et qui fait tomber la pluie, comme je te demande de souffler le vent et d'amener de la pluie. Non, ce n'est pas une demande, c'est une louange. Pour cela qu'on va dire cette phrase-là, pas dans les parties de la prière qui sont des demandes, mais dans la partie qui sont des louanges. La prière, elle est divisée en trois parties. Il y a 19 brachot, les trois premières sont des louanges, on ne fait aucune demande. Les trois dernières sont du remerciement, on ne fait presque aucune demande, et je dis presque, il y a un peu quand même des demandes, mais disons le principal sujet est un remerciement, et il reste les 13 brachot du milieu qui sont des brachot de demande. Alors, étant donné que ce n'est pas une demande mais une louange, qui souffle le vent, loue Dieu qui souffle le vent et fait descendre la rosée, on dira cela dans une des trois premières brachot de la Amida, laquelle a été choisie la deuxième. Pourquoi? La deuxième, elle parle de Tchat HaMetim, la résurrection des morts. Or, il est écrit dans la Gemara, le jour de la pluie est plus grand que la résurrection des morts. C'est très simple. Pourquoi? Parce que la terre, elle est morte, d'accord? C'est minéral, ça n'a rien. Et sans pluie, il y aura, même s'il y a des graines qui sont plantées, elles vont rester mortes et il n'y aura absolument rien. Donc, quelque part, quand la pluie vient, ça fait revivre. Non seulement la terre, mais par le soin indirect, nous-mêmes aussi, si la sécheresse, on crève de faim à l'UNPS. Donc, quand on commence à dire cette louange-là, normalement on aurait dû commencer dès l'hiver. C'est quoi l'hiver? En fait, c'est l'équinoxe, on va dire, c'est le 21 septembre, on devrait commencer. Mais on ne veut pas commencer le 21 septembre, pourquoi? Parce que c'est la fête de Soukhot. Et si on a Soukha et Smer, tu le vois, c'est pas du tout agréable. Alors on attend que la fête de Soukhot passe, c'est marqué que s'il pleut pendant Soukhot, c'est un signe de malédiction. Voilà, la Mishnah elle dit que c'est comme si un serviteur amène un verre d'eau à son maître et il lui jette à la figure, d'accord? Dieu nous demande quelque part, serre-moi, va dans la Soukha, et quand je vais dans la Soukha, hop, il verse sur moi un verre d'eau, d'accord? Alors il ne faut pas laisser dans son casque, il ne faut pas s'entêter, c'est comme si maintenant le maître t'a envoyé le verre d'eau sur la figure, t'as dit non, je reste, reprenez quand même un verre. Écoute, mon cher ami, dégage, d'accord. Donc il faut quitter la soukha avec abnégation. Étant donné que c'est une malédiction, il est absurde qu'on demande, à ce moment qu'on loue Dieu maintenant pour le faire, qu'il va descendre la pluie. C'est absolument de la pluie. Tu dis, je veux un soukha, je demande ou je loue Dieu pour la pluie qui descend, c'est faux. Donc qu'est-ce qu'on fait? On attend le dernier jour de soukha, c'est le lendemain, Shmini Atzeret, et à Moussaf de Shmini Atzeret. Donc l'huitième jour de Soukhot, pour les étrangers, ceux qui font 8 jours de Soukhot à l'étranger, ici il n'y a que 7 jours, donc le 8e jour de Shmini Atzeret, à Moussaf, on commence à dire « Mashiv Haruach Moed Hageshem ». Si quelqu'un a oublié durant l'année, et continue à dire « Moed Atal », ou il a continué, un jour, même à Hanouka, d'accord, en plein mois de février, il s'est trompé, il a dit « Mori Datal ». Il n'y a aucun problème, parce que c'est pas faux de dire « Mori Datal ». Mori Datal, c'est fini, on loue Dieu qui descend l'arroser. Bien qu'il la pluie, aussi de l'arroser. Donc c'est pas faux de louer Dieu, parce qu'il fait descendre la pluie. Si je dis en été, qui souffle le vent, qui fait descendre la pluie, c'est faux, c'est complètement non actuel. Par contre, si je dis en hiver, Mori Datal, c'est pas grave. Donc, il faut dire normalement, Mashiborach Mori Dageshem, ou soit des Mori Datal, c'est pas grave, on peut continuer. Il sera bien, de, avant de finir la bracha, si on n'a pas fini la bracha, donc la bracha c'est Mashiborach Hashem Achayam Metim, si on n'a pas encore fini, on dira Mori Datal, pardon, on dira Mashiborach Mori Dageshem, la phrase qu'on a oublié de dire, et après on dira la fin, toujours la fin de la bracha, Veneman Atal Achayam Metim, tu es Veneman, on peut faire confiance que tu vas ressusciter les morts, Baruch Atah Hashem, Achayam Metim. Donc c'est pas obligatoire, c'est juste bien. Si quelqu'un il a oublié de dire Mashiborach Mori Dageshem, et c'est déjà la parole qu'on doit le dire, donc depuis Moussaf de Shmini Atzeret, il a dit Mori Datal, alors il peut continuer. C'est bien avant la fin de la bracha qu'il dise Mashiborach Mori Dageshem, Venema Talachot Metim, Baruch Atah Hashem, Achayam Metim. C'est juste bien, pas obligatoire. S'il a oublié après Baruch Atah Hashem, Achayam Metim, mais il a dit Baruch Atah Hashem, on verra que pour l'autre demande, c'est de la 8e bracha, Betentar Mataro Eli Bracha, si on a oublié, on va voir ça aujourd'hui durant le cours, on a dit Baruch Atah Hashem, c'est bien de finir, pas de finir la bracha normalement, de dire un verset de Tehillim, Baruch Atah Adonai, l'amdeni chokecha. Si quelqu'un dit Baruch Atah Hashem, il a commencé une bracha. On ne peut pas s'arrêter au milieu comme ça. C'est très grave, on prononce le nom de Dieu en vain. C'est le troisième commandement qu'on transgresse, celui de prononcer le nom de Dieu en vain, pour se faire dire si on prononce une bracha en vain, une bénédiction en vain. Donc, si tu dis Baruch Atah Hashem, tu as fait déjà une bénédiction. Mais néanmoins, on peut récupérer. Alors, quelqu'un maintenant, je ne sais pas, il fait boire des fachotes, il a mangé une pomme, il fait boire des fachotes. Vous vous rappelez qu'il a déjà fait boire des fachotes, il a commencé déjà à dire Baruch Atah Hashem. D'accord ? Qu'est-ce qu'il peut faire pour récupérer ? Il dit un verset de Tehillim 119, Baruch Atah Adonai, Lamdeni Chokecha. C'est un verset de Tehillim où on loue Dieu, il nous enseigne ses lois. Donc il n'y a pas. On peut dire ce verset, je peux dire 40 fois Baruch Atah Adonai, Lamdeni Chokecha, Baruch Atah Adonai, Lamdeni Chokecha, Baruch Atah Adonai, Lamdeni Chokecha. Aucun problème, je lis les Tehillim. Baruch Hashem, c'est bien de lire les Tehillim. Donc on peut récupérer. On verra que dans certains cas, comme dans le cas de la 8e bracha, c'est juste ce qu'il fallait dire, si on dit Baruch Atah Hashem, on s'est rappelé qu'on oublie, on finira en disant Lamdeni Chokecha. Là, dans le cas de Mashiborach Mori Dageshem, donc ce qu'on insère dans la 2e bracha, vu que c'est une louange qu'on peut remplacer quelque part par Mori Datal, c'est pas grave, Mori Datal, c'est pas un mensonge. Je dis bien quand on dit ça en hiver à la place de l'été, pas le contraire. Je rappelle que si on dit en été, on dit Mashiborach Mori Dageshem, là c'est un problème, il faut revenir. Mais si on est en hiver, on s'est trompé en Mori Datal, alors si on dit Baruch Atah Hashem, on continue. On dit Mahaya Metim, on continue la Midah normalement. On ne dira pas la Midah Lechoukech. Ça, c'est pour la première chose qu'on insère, donc Mashiborach Mori Dageshem, c'est facile. Le deuxième passage qu'on insère en hiver, c'est donc pour la 8e bracha, le Ten Talomater Levracha, qui donne la rosée et la pluie avec bénédiction. On commence à dire ce passage-là quand ? Normalement, on aurait dû commencer après Soukot. Vu qu'on loue Dieu maintenant pour la pluie qui tombe, on s'est demandé qui est la pluie. Mais à l'époque, on savait que beaucoup de juifs habitaient l'étranger, donc après la construction du deuxième temple. La majorité des juifs habitaient la Babylonie et venaient ici pour les trois fêtes. Pessah, Shavuot, Soukot, pour Hagalim, les fêtes de pèlerinage. Venaient ici et repartaient pour Babylonie. Maintenant, si le lendemain de Soukot, Shmini Atzeret, on commence, tout ça commence à demander la pluie, Dieu nous aime bien, et il répond. Et il y a la pluie, et toute la route maintenant par Babylonie, elle est pleine de boue, je ne sais pas comment aujourd'hui il y a des autoroutes, d'accord, elle est pleine de boue, ils étaient avec des chariots, c'était impossible. En route, quand tu vas, pas en voiture, mais en chariot ou sur des ânes, il se met à pleuvoir, c'est la pire des choses. Le Kohen Gadol, quand il rentrait dans le Saint des Saints, une fois par année, il rentrait dans le Saint des Saints. Et Yom Kippour, il mettait là-bas l'encensoir, il sortait dans le Saint, et là, c'est une petite prière courte. Pourquoi courte ? Pour ne pas faire peur au peuple d'Israël. On avait peur qu'il soit mort. Si un Kohen Gadol n'était pas suffisamment pur et saint, et rentrait dans le Saint des Saints, il mourrait. Sur les 420 ans d'existence du deuxième temple, il y a un Kohen Gadol qui a, pendant 80 ans, il a assuré son sacerdoce, c'était Rabbi Yochanan Kohen Gadol.
Et Rabbi Yochanan ben Zakkai qui l'a fait 17 ans, il y avait Rabbi Shlomo ben Shapar qui l'a fait 40 ans. Déjà là, avec ces trois-là, on est à 177 ans en français. D'accord ? Reste sur 420 ans, combien ça vous fait ? Grosso modo, 370 ans, il reste. Grosso modo. Ces 370 ans, il y a eu plus de 350 Kohanim Gdolim. Beaucoup de Kohanim Gdolim n'ont pas fini leur année. Parce qu'à l'époque, il y avait la corruption, on donnait un peu d'argent de bakchich, on donnait Kohanim Gadol, etc. Donc il y avait beaucoup de... Donc c'est assez habituel que le Kohanim Gadol rentre dans le Saint-Dessin et n'en sort pas. D'ailleurs, on mettait une corde à son pied pour le tirer de l'extérieur. Alors quand il faisait sa prière dans le Saint, il faisait très courte, pour pas que l'Israël ait peur que le Kohanim Gadol soit mort dedans. Il faisait une prière très très rapide, dans laquelle, regardez à quel point, donc il demandait à Dieu qui est la pluie, et que Dieu écoute les prières de son peuple d'Israël, excepté celles de ceux qui sont sur le chemin en route et qui demandent à Dieu de ne pas donner d'appui. Donc maintenant, les champs ont besoin de pluie, et t'as un qui va sur son âne, maintenant, dit Dieu, aie pitié de moi, fasse qu'il fasse beau temps et qu'il n'y ait pas de pluie. Ben, tous les jours, t'en as un qui passe sur la route avec son âne, chaque fois il demande à Dieu, Dieu l'écoute, et pour finir, tous les gens, toute la région avec les gens à côté, ils auront la sécheresse. Donc le Cohen a demandé de ne pas écouter cette prière-là, enfin, plus prière qu'il faisait, de ne pas écouter la prière de ceux qui sont sur la route et de monde qui n'est pas de pluie. Donc, vu que Béné Israël, si ils avaient commencé à dire le dernier jour de Soukhot, Dieu donne la pluie, tous les pèlerins venus de Babylonie, c'était au moins 1 million de personnes, étaient bloqués sur les routes de la boue, etc. Donc, Chazal, nos sages de Babylone, ont institué qu'on commence à dire Mashiach Moroud et Geshem demain soir. Demain soir, c'est le soir du 7 Cheshvan, 2 semaines après Soukhot. En 2 semaines, Tout le monde est rentré en Babylone. Il n'y avait pas des gens qui habitaient à l'époque en France ou au Maroc, d'accord. Tous les pèlerins, ils venaient au plus loin, à 15 jours de marche à Dodane, depuis l'étranger, la région de la Babylonie. En 15 jours, tout le monde était rentré. On veut dire que le dernier était rentré, c'est-à-dire le 7 à cheval au soir, on pouvait commencer à demander la pluie. Donc, dès demain soir, dans la 8e bracha de la Mida, on ne dira pas le passage commençant par Bachenu Hashem Elokeinu, comme on fait en été, mais on dira Barech Alef Hashem Elokeinu. Dans ce passage, il y a la phrase la plus importante, Veten Talumatar, donne de la rosée de la pluie avec bénédiction. Ça, c'est pour les habitants de la terre d'Israël. Les habitants de l'étranger, étant donné qu'ils ont moins besoin d'eau que la terre d'Israël. La terre d'Israël est une terre assez proche du désert, assez, par rapport à l'Europe, assez dans le sud, donc on a besoin d'eau, donc on demande plutôt de l'eau. Par contre, dans les pays où il n'y a pas besoin tellement d'eau, parce que c'est un climat plus tempéré, Chazal institué qui demandait la pluie 60 jours après l'équinoxe. L'équinoxe, parce qu'on appelle la Goula Troufa, le moment où il y a l'équilibre entre la Terre se trouve à même longueur de... Enfin, la nuit et le jour sont de même longueur, de bon, d'accord. C'est que la Terre maintenant, en hiver, la Terre elle est penchée 23 degrés par rapport à l'axe nord-sud. La Terre elle est penchée de 23 degrés. Attends, si le Soleil est là et la Terre tourne, l'axe il reste comme ça. Donc ici, l'hémisphère nord est plus exposé au Soleil, et là, elle est moins exposée au Soleil. Ce qui fait qu'ici, on est en été, ici, on est en hiver. Ici, les jours sont plus longs, plus exposé, donc la nuit est beaucoup plus courte, là, les nuits sont beaucoup plus longues. L'équinoxe, c'est le moment où au printemps ou en automne, lorsque la Terre se trouve à mi-chemin entre les deux antipodes de son cycle. 60 jours après, ça fait, c'est le 4 décembre. Le 4 décembre, au soir, arrive le 4 décembre, ou la veille du 5 décembre, et les années bissextiles, donc les années où il y a 29 jours au mois de février, ce sera le soir du 5 décembre, la veille du 6 décembre, à l'étranger, on commence à dire le Tentalomator Bracha, donc Barech Alen. D'accord, dans le Bracha, on commence la phrase qu'on dit en hiver et pas en été. Les régions qui sont toutes proches d'Israël, Jordanie, Syrie, Liban, Elat qui est hors d'Israël, du point de vue religieux, c'est hors d'Israël, mais quand même c'est proche d'Israël, le Sinaï, commenceront comme la terre d'Israël. Parce que c'est des climats qui ressemblent à celui d'Israël, donc ils font la demande des 2 semaines, dans le 7 Cheshvan, des 2 semaines après Soukhot. Tous les pays du monde commencent que 60 jours après l'équinoxe, le 5, donc le 4 décembre au soir ou le 5 décembre au soir. Ça dépend de la nuit bissextile ou pas. En parenthèse, c'est la seule fois dans la halakha, le seul cas unique de toute la halakha, où on base une chose sur le calendrier solaire. Notre calendrier, il est lunaire-solaire. Lunaire au niveau des mois, solaire au niveau du fait que les fêtes doivent coïncider avec les saisons. D'accord ? C'est moi qui me rends compte de Pessah Hagamu, la fête du printemps, Sukkot Hagasif, quand on ramène tout dans la maison, c'est donc l'automne. Si on avait un calendrier qui serait basé que sur la Lune, on aurait 11 jours de retard chaque année sur le calendrier solaire. Le calendrier solaire, c'est le temps que prend la Terre pour faire un tour autour du Soleil. Ça prend 365 jours, un quart et moins quelques poussières. D'accord ? 365 jours. Une année lunaire, c'est quoi ? C'est 12 mois lunaires. Lunaire, c'est quand on a ici la Terre, on a la Lune qui fait un tour autour de la Terre. La pleine Lune, c'est quoi ? C'est le 15e jour du mois. Le nouveau mois, c'est lorsque la Lune se trouve exactement dans la Terre, Lune, Soleil, où elle est invisible. D'accord, le côté caché de la Lune, d'accord, lorsqu'on voit ce côté, il faut rien voir en fait, c'est obscur, là c'est la nouvelle Lune. Ce moment-là, on appelle le monade, ça prend combien de temps que ça fait faire un tour, c'est une des grandes découvertes que le peuple juif avait, qu'aucun astronome des pays étrangers ne possédait, c'est un secret, c'est marqué dans le traité, je pense que c'est la page 25a, Rabban Gamliel dit, genre la maison de mon père, c'est le roi David, qu'on n'a pas de monade de nouveau mois, à moins de 29 jours et demi, et 793 1081e, ce qui fait grosso modo 40 minutes, 41 minutes environ. La longueur du mois lunaire fait 29 jours et demi et 41 minutes environ. Ça c'est la longueur du mois lunaire. Maintenant, 29 et demi, il faut qu'on a toujours ou un mois de 29, un mois de 30, un mois de 29, un mois de 30. On peut pas faire des jours et demi, d'accord, des demi-jours, ça tient pas la route. On fait ou un mois de 29, un mois de 30, comme ça, grosso modo, on retourne sur nos pattes, on a 29 jours et demi. Une année lunaire, 12 révolutions de la Lune autour de la Terre, ça fait 354 jours, grosso modo. Donc il y a une différence de 11 jours entre calendrier solaire et calendrier lunaire, ce qui fait que celui qui est basé que sur le calendrier solaire aura un retard de 11 jours chaque année par rapport aux saisons. Les saisons sont fixées par le soleil. Le mois est fixé par la nouvelle lune. Les chrétiens fonctionnent qu'au niveau solaire. C'est pour ça qu'ils n'auront pas de mois. Le mois grégorien, d'accord, Jean-Évry, Marc, etc., ce sont des fictions. C'est des mois tout à fait arbitraires, on a pris une date comme ça, on dit ok, ça c'est le premier, on compte 30 jours et c'est le deuxième. Mais tant qu'une date physique correspondant à cela. Par contre, le mois lunaire, c'est physique. La nouvelle lune, on ne voit pas la lune, du coup on la revoit. Ça correspond à une réalité qui est physique. Les saisons correspondent à une réalité qui est solaire. Les Ishmaélites, qui fonctionnent qu'au calendrier lunaire, auront leur fête le ramadan, chaque année c'est 11 jours plus tôt. Alors tantôt c'est en printemps, tantôt en hiver, tantôt, etc. Chez nous, il faut qu'il y ait une coïncidence entre la réalité physique du mois qui est le calendrier lunaire et la réalité physique du soleil qui est le calendrier solaire qui fixe les saisons, parce qu'il faut que les fêtes soient certaines saisons. C'est vrai qu'on va rajouter un mois en plus, comme cette année, d'accord, on a deux mois de Hadar. Cette année, tous les 19 ans, on aura, pendant 7 fois, on aura une année tous les 19 ans qui aura 13 mois. Et comme ça, on arrive à avoir une coïncidence entre la réalité solaire des saisons et la réalité lunaire. Nous fonctionnons donc que au niveau des mois, qu'au niveau lunaire. On rajoute un mois lunaire, ce qui fait que par rapport aux saisons, et donc au calendrier solaire, on est en adéquation. La seule fois de la halakha où on fixe une chose au niveau du calendrier solaire, c'est à propos de cette bracha, on dit que le 4 décembre ou le 5 décembre au soir, ça dépend de l'église bisexuelle ou pas, on commence à dire à l'étranger, Barer Alel. Donc c'est la seule fois toute la halakha où on fait une chose après le calendrier solaire. Cela est valable jusqu'en l'an 2100. Il faut savoir que le calendrier Julien Grégorien n'est pas exact. Savoir quoi Julien Grégorien, là, qui s'appelle Jules César, vous connaissez Vini, d'accord, c'était un très grand. Un des Césars, c'est Obélix, c'est la conquête de la Gaule, tout le monde très connu, Jules César, donc il a fixé un calendrier solaire. Mais il n'était pas tout à fait exact. À l'époque du pape Grégoire, si je me souviens bien, en 1515, quelque chose comme ça, tu es au courant, quand c'était 1580, enfin au XVIe siècle, les astronomes ont remarqué qu'ils avaient 10 jours de retard par rapport à la réalité astronomique du calendrier solaire. Ils étaient le 5 novembre, en fait. Ils étaient le 15 novembre, et dans leur calendrier, le calendrier s'est marqué 5 novembre. Il y avait 10 jours de retard. Donc le pape a décidé de sauter du 5 au 15 novembre. D'ailleurs, toute l'Europe était en révolution partout. Il y avait des manifestations. Pourquoi ? Parce qu'on a dit que le pape nous a volé 10 jours. Bah oui, c'est passé. C'est difficile que tu dois mourir en l'an 1600, d'accord ? On t'a piqué 10 jours du 5 novembre au 15 novembre. On t'a piqué 10 jours de ta vie, d'accord ? On est un peu sonné à l'époque, d'accord ? Et le pape Grégoire, donc il a, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a rajouté, si je me souviens bien, il a rajouté que toutes les années, donc tous les siècles, toutes les années qui finissent par 0,0, on rajoute, on n'a pas une année bissextile. On enlève un jour, on rajoute un jour. Je ne sais pas où c'est une année bissextile, on enlève, c'est pas une année bissextile. On rajoute un jour par siècle, comme ça on corrige l'inexactitude, et comme ça on est. Ça reste pas tout à fait exact, mais disons, c'est une fois tous les 1000 ans, il faudra peut-être rajouter encore un jour, quelque chose comme ça. Bon, ça déjà, ça, c'est beaucoup plus précis. Donc c'est pour ça que ce calendrier est devenu le calendrier julien, grégorien, Julien, Jules César, Grégoire, le pape, 1500 ans plus tard. Donc étant donné qu'il n'est pas exact, ce que je dis maintenant, qu'on commençait à dire à l'étranger, Baruch Aleinu, le soir du 4 décembre, au dernier de Sextile, le soir du 5 décembre, sera valable jusqu'en l'an 2100. Car dès l'an 2100, il y aura une inexactitude entre le calendrier et la réalité solaire, on en passera un jour plus tard. On fera le 5 décembre ou le 6 décembre au soir. Donc si on vit jusqu'à l'an 2100, ben, il y aura ta chaîne, vous peut-être, moi je ne sais pas. Alors, j'aurais 140 ans à l'époque. D'accord. Alors on saura qu'il faudra changer le calendrier un jour plus tard, commencer à l'étranger. On sera pas à l'étranger, tous en tête, ça sera ta chaîne à ce moment-là. Si quelqu'un s'est trompé et il a commencé à dire mais ten talumata, ce qu'on dit dans la huitième bracha, d'accord ? Ici en Israël, il faut commencer deux semaines après Soukot, lui il a commencé à Soukot. Il s'est dit on commence à dire machoir au mot d'Agesh, on se bracha, on rajoute, bah, c'est descendre en hiver, il a fait tout à total, d'accord ? Il a commencé aussi à dire ten talumata. En deux mots, il n'a pas pris en considération les olérégalim, les pèlerins qui rentrent maintenant en terre de Babylonie pendant deux semaines. Ou bien à l'étranger, il s'est dit, j'étais en Israël, et puis j'ai vu, enfin, j'ai un cousin qui est en Israël, Shiva, il m'a dit que le 7 Hachan, donc demain soir, jeudi soir, ce sera quelle date en Goy, demain soir
10 octobre.
10 octobre, au soir, on élève mon copain qui est allé chez Ranchaya, il commence déjà à dire, il m'a dit, fais attention, ce soir on commence à dire, Tentalomata. Et lui, il habite Paris, il a commencé. Et il s'est trompé, parce que eux, c'est que le 5 décembre, d'accord, le 4 décembre au soir. Dans ces cas-là, dans ces deux cas, Bediava, si on s'est trompé, c'est pas grave et on ne va pas refaire la Amida. C'est valable parce que quelque part, ce n'est pas complètement dans le faux. Ce qu'on a, on aurait dû commencer à Soukot en Israël. On n'a pas fait à cause des pèlerins, mais ce n'est pas complètement faux de commencer à demander la pluie deux semaines avant. Idem à l'étranger, tu as commencé le 4 décembre au soir, tu as commencé comme Israël. Bon, ce n'est pas complètement faux. Après tout, il y a une condition. Il faut qu'on soit dans un pays qui a besoin de pluie. Si tu es un pays maintenant déjà qui est en inondation, d'accord, comme tu viens de dire, envoie la pluie, d'accord, c'est clairement le contraire, il ne faut pas de pluie, alors la bracha n'est pas valable, là tu dois refaire. Mais si c'est un pays où c'est pas si mauvais qu'il y ait de la pluie, dans ce cas-là, ta bracha n'est pas bancale et c'est valable. Ce sera néanmoins bien, ce sera néanmoins bien de, après la Amida, de dire, poser une condition et dire, je vais refaire maintenant ma Amida. Si d'après la vérité, je explique au niveau de l'alakha, au niveau de l'alakha, l'alakha est tranchée qu'on ne doit pas refaire. Si quelqu'un a fait toute la Amida comme ça, il ne doit pas la refaire. Mais il y a quelques postulats, quelques décisions qui disent que oui, il faut la refaire. Tu t'es trompé, mon cher ami, il faut tout refaire. Là, la fin, on ne prend pas de risque. On ne veut pas faire de bracha et bata de bracha en vain, donc on ne refait pas la Amida. Mais étant donné qu'il y a quand même certaines décisions d'un risque qu'il faut oui la refaire, qu'est-ce qu'on fait ? Dans tous les cas, on a un doute si on doit refaire la Amida ou pas, on pose une condition, on dit comme ça. Si d'après la vérité, je dois refaire ma Amida, que ce soit maintenant la Amida que je dois refaire. Sinon, que ce soit une prière d'offrande. Quelqu'un peut, s'il veut, rajouter, faire une prière. Maintenant, il est maintenant 11h du matin, moi j'ai prié ce matin, j'aime bien Dieu, je refais encore une bracha, je me mets tout droit, je mets un mita. C'est permis, c'est une prière d'offrande. On déconseille beaucoup de faire cela. Là, la fin, on ne le fait pas d'habitude. Pourquoi ? Parce que, à l'éveil, si seulement déjà tu as la bracha, la mita que tu dois faire normalement, tu la fasses bien. D'habitude, on commence à mida, on retachem, on est parti à Capulco, ou je ne sais pas où, d'accord, sur Mars, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, pourquoi ma fille, il m'a fait si, j'ai oublié d'aller à la poste, etc. On parle, tout ce qu'on a oublié, on se rappelle d'habitude dans la mida, d'accord, parce qu'on ne fait plus rien, on prie à Dieu, et évidemment, on ne pense pas ce qu'on dit, alors tout ce qu'on doit se rappeler, on se rappelle dans la mida. À moins que Baruch HaShem ait des bons juifs qui prient bien comme il faut. Mais étant donné que c'est dur de prier comme il faut, et qu'il n'est pas certain qu'on ait prononcé tous les mots avec conviction comme il faut bien, on dit pourquoi on va maintenant de nouveau rentrer dans une obligation qui n'est pas une obligation. Mais si on commence, il faut dire tout, quand tu fais déjà une offrande qui n'est pas obligatoire, comment tu vas prononcer le nom sans penser ce que tu dis? C'est honteux, c'est grave. Donc on a intérêt de le faire. Mais dans des cas, bien que théoriquement c'est permis, pratiquement on ne le fait pas. Mais dans les cas où il y a une nécessité, telle que j'ai un doute maintenant si l'amida que j'ai fait est valable ou pas, je peux refaire maintenant une prière d'offrande en posant une condition. Si d'après la vérité, maintenant je dois refaire l'amida, alors que ce soit maintenant l'amida obligatoire que je refasse. Sinon, ça considéré comme une prière d'offrande. Il est bien de rajouter aussi un petit passage personnel. On ne fait pas une bonne prière d'offrande. Il faut aussi rajouter un petit truc personnel pour dire que ce n'est pas comme une amida normale. Je rajoute encore un petit truc personnel.
Il aurait pu faire ça aussi vendredi soir ou Shabbat?
Non. Non.
C'est un problème de corban nidah.
Exactement. Vu qu'on ne peut pas amener, vu que les prières sont à la place des sacrifices, et que les prières qu'on fait, c'est après le sacrifice tamid obligatoire quotidien qu'il y avait deux fois par jour, shachrit et mincha. Arvit, on fait aussi, parce qu'on brûlait, on consumait les organes du sacrifice qui a été sacrifié, qui a été égorgé à mincha, on le brûlait, on le consumait durant la nuit, donc c'est quand on a arvit. Et c'est pour ça qu'aussi à Shabbat, on aura les prières de shachrit, mincha, arvit, et moussaf par rapport au sacrifice de moussaf. Mais on ne pouvait pas amener Shabbat des sacrifices d'offrande, on pouvait amener ça en chol. Donc, en rôle, un jour profane, je peux faire maintenant une prière qui correspond à un sacrifice d'offrande. Comme je dis maintenant, je ne suis pas obligé d'amener un sacrifice quotidien. Il est obligatoire. Je ne veux pas maintenant amener ce sacrifice, je veux amener un sacrifice maintenant qui est une offrande personnelle. Un hola, un shlamim, un sacrifice qu'on peut amener de ce type-là. Donc, on peut le faire qu'en jour de rôle, mais pas le jour de Shabbat. Shabbat, on ne peut pas égorger, on ne peut pas brûler. Ce qu'on est obligé de faire, on peut le faire. Mais ce qui n'est pas obligatoire, on ne peut pas le faire. De même, donc, au niveau des prières actuelles, on ne peut pas faire une prière d'offrande pendant Shabbat ni pendant Yom Tov.
Le soir à Arvid, on peut refaire comme ça une
date. On peut refaire aussi une prière d'offrande comme ça, oui. Maintenant, ça c'est pour le cas de celui qui est ici en Israël et qui a commencé deux semaines avant la date à dire Tentalomator Wacha. Idem celui qui est à l'étranger, qui a commencé depuis le 10 octobre au soir, donc 7 Rejvan, la veille du 7 Rejvan, il a commencé à dire à l'étranger comme les habitants d'Israël, vu que ce n'est pas complètement faux, à condition qu'il y ait besoin de plus dans le pays dans lequel il est. Alors, il n'est pas obligé de refaire sa amida, il sera bien néanmoins, pas obligatoire, bien néanmoins, de refaire l'amida avec une condition que cette prière, une prière d'offrande, qui n'est pas obligatoire. On verra dimanche binéder la suite pour ceux qui sont, c'est important, ceux qui sont ici de passage en Israël, qui repartent en France, avant, après, dans cette période-là, ceux qui viennent de l'étranger ici, qui repartent, d'accord, c'est très compliqué, pas trop compliqué non plus, on verra tous ces lois-là, et aussi les pays de l'hémisphère sud, qui ont les saisons inversées, on aura cela à Nisra Hachem avec si Dieu le veut, dimanche binaire. Baruch Adonai, Ramam Amen.